Alexandre Melnik est en ligne avec nous à présent. Bonsoir.
Ah bon, bonsoir.
Alexandre Melnik, vous êtes professeur à l'INC. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages. Votre spécialité, c'est la science politique et la diplomatie. Et on va essayer un peu, si vous voulez, de voir avec vous un peu, j'ai envie de dire, comme l'école française aime le faire, c'est-à-dire mettre un peu plein d'éléments ensemble pour essayer d'y voir plus clair, même si a priori ça semble compliqué parce que c'est plein d'éléments.
Et ah oui, tout à fait, avec plaisir. Donc l'école où je travaille, ça s'appelle ICM. Voilà, donc une petite
ICM.
Précision. ICM Business School, oui.
Est-ce que vous avez le sentiment que la démocratie est en danger? Et je vais prendre une petite minute pour vous présenter mon propos et je vous cède la parole.
D'accord.
Si les Chinois gagnent le bras de fer contre les Américains, c'en est fini de notre rêve à nous que la démocratie est supérieure à l'autocratie. S'ils gagnent, c'est une catastrophe pour tout le monde. Les mêmes États-Unis qui sont en guerre contre Vladimir Poutine. Si Vladimir Poutine montre au monde entier qu'on peut décider tout seul d'envahir un pays, d'avoir le monde occidental contre soi et de gagner, c'est une catastrophe planétaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, j'entendais dernièrement un ambassadeur taïwanais, je ne sais pas lequel, qui disait « Si on envahit Taïwan, c'est la fin de la planète. » Parce que c'est la guerre mondiale. Il y a 23 millions de personnes à Taïwan. Nous, on croit que c'est une petite île comme ça, c'est pas la Corse. Hein. 23 millions d'habitants. Comme l'Ukraine, on croyait que c'était un petit pays, on a vu que c'est des millions d'Ukrainiens.
Et est-ce que 45 millions, hein, quand même, plus exactement.
Est-ce que vous avez l'impression que la démocratie, notre mode de vie à nous, bon, on vit bien, pas mal, bon, on trouve qu'il fait trop chaud. Est-ce que vous trouvez que nous, en fait, on est beaucoup plus en danger que ce qu'on croit?
Bernard, votre question est absolument pertinente parce
Merci
que ça
beaucoup.
Va à l'essentiel du 21e siècle. Donc, c'est-à-dire le 21e siècle, il ne faut pas le confondre avec le siècle précédent. Le siècle précédent, du point de vue géopolitique, s'est terminé avec la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique. Le siècle précédent, c'était un siècle de la bipolarité idéologique, c'est-à-dire le combat était entre deux systèmes antagonistes. D'un côté, il y avait le communisme et de l'autre côté, il y avait le capitalisme. Donc, avec la disparition de ce monde-là, nous vivons l'émergence d'un nouveau monde, d'un nouvel univers que j'appelle d'ailleurs le plus grand changement de paradigme civilisationnel depuis le début de l'humanité, c'est vous dire.
Et
bien, C'est quoi la quintessence de ce monde? Évidemment, il est global, interconnecté, interdépendant, mais l'une des caractéristiques de ce nouveau monde, c'est que la civilisation dite occidentale, c'est-à-dire cette civilisation qui est née au 5e siècle avant la naissance de Jésus à Athènes et qui avait inventé la démocratie, le mot-clé que vous avez prononcé, eh bien cette civilisation occidentale qui englobe l'Europe, les États-Unis, l'Australie, d'autres pays, Israël aussi évidemment, donc cette civilisation occidentale qui gouvernait, pilotait, dirigeait pour le bien et pour le mal, le monde depuis la Renaissance de l'Europe du 15e siècle, c'est-à-dire pendant 5 siècles, et ben à partir de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire dès le début du 21e siècle, cette civilisation occidentale n'a plus ce que j'appelle le monopole de l'histoire, avec le H majuscule évidemment. C'est-à-dire cette civilisation occidentale ne possède plus l'exclusivité du pouvoir en termes de pouvoir militaire, c'est ce qu'on appelle en géopolitique en anglais « hard power », et aussi, et surtout d'ailleurs, en termes de « soft power », c'est-à-dire l'attractivité du pouvoir d'exemplarité, du pouvoir pacifique. Pourquoi? Bah, tout simplement la quintessence, je prononce déjà pour une deuxième ou troisième fois ce mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'essentiel, la quintessence de cette civilisation, c'est justement la démocratie. Mais le problème, c'est que dans le 21e siècle, où le monde occidental n'a plus le monopole de l'histoire, cette démocratie, en tant que mode de fonctionnement de la société, est gravement, fortement mise en question. Parce qu'il y a des gens, d'abord, à l'intérieur des démocraties, qui ne croient plus aux vertus de la démocratie, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit Israël et d'autres pays. Par exemple, mes étudiants qui vivent dans les pays démocratiques, quand je leur pose la question, est-ce que vous pensez que la France est un pays démocratique? Mais non, monsieur Ménic, la France n'est pas un pays démocratique. C'est-à-dire s'il y a des jeunes générations qui ne croient plus aux vertus, aux valeurs démocratiques, il n'y aura plus de démocratie. Mais pourquoi ils ne croient pas aux vertus de la démocratie? Pourquoi la démocratie s'effrite de l'intérieur? Tout simplement parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde instantané, géré par le clic, immédiat, où il faut prendre les décisions tout de suite, des décisions directes, alors que la démocratie, par définition, c'est un processus long, qui suppose, par exemple, un débat contradictoire, qui suppose, par exemple, la séparation des pouvoirs. Mais c'est long, tout ça. Alors que, de l'autre côté de la barricade, si j'ose dire, du XXIe siècle, face à ces démocraties qui traversent aujourd'hui une crise existentielle, il y a les pays qui représentent l'autocratie, c'est-à-dire des pays répressifs, des pays liberticides, des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme.
Des pays menteurs, Alexandre, des pays menteurs. Attends, il y a pire que ça, des pays menteurs, des pays... pour qui
le mensonge
est égal à la vérité. Je vais donner un exemple. C'est probablement les Ukrainiens, on n'est pas encore sûr, qui ont bombardé la Crimée. Ils ont fait un carnage sur une base militaire. Ils ont même, ils ont même détruit des avions, ce qui est très...
Bien sûr.
Tranquillement, Poutine vous dit, non, mais c'est rien, on n'a rien eu. Tranquillement. Je vais vous donner... Non, on n'a pas eu de pertes. Mm-hmm. Il y a des images, c'est pas grave.
Oui.
Donc, on a ça aussi avec les Chinois, on a la même chose. Je vais donner un autre exemple. Ils ont, les Russes ont dit... que vous vous souvenez du bombardement du centre commercial?
Bien sûr.
Le centre commercial, 50 morts ou 27 morts, je ne sais même pas, mais enfin, c'est un véritable carnage, etc. Ils ont dit, mais non, ça n'a jamais été bombardé, carrément. Bon, il y a des images. Ah oui, ça a été bombardé, mais en fait, c'était un dépôt de munitions. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez probablement pas, parce que c'est vraiment un témoignage direct. J'ai eu une jeune fille qui s'appelle Rani Azimov, qui est la responsable des Lubavitch là-bas. Elle m'a dit, elle n'est pas là pour nous baratiner. Elle m'a dit, mais monsieur, c'est un centre commercial, bien sûr, c'est là où on allait tous les jours. Et
bien
sur toute la planète, on vous dit, mais non, c'est un mensonge. Et vous avez des gens comme mon fils, par exemple, qui dit, papa, tu sais, c'est 50-50, on ne sait pas, on n'y était pas.
Ah oui, tout à fait. Bernard, vous, une fois de plus, vous allez à l'essentiel de mes enseignements sur le monde du 21e siècle. Je termine avec le combat entre la démocratie d'un côté qui traverse aujourd'hui une crise existentielle et s'effrite d'une certaine façon même de l'intérieur. Et évidemment, elle est sabotée aussi par de l'extérieur. Et aussi les autocraties qui... qu'on le veuille ou non, mais du point de vue économique, par exemple, et militaire, monte aujourd'hui, monte en puissance dans le 21e siècle. Donc, il faut réinitialiser la démocratie comme c'était le cas pendant la Renaissance du 21e siècle. Là, je termine, mais très rapidement, évidemment, en synthèse, ma réponse à votre première question. Votre deuxième question concerne le combat aussi important du 21e siècle entre, d'un côté, la vérité et de l'autre côté, le mensonge. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mensonge, la post-vérité. D'ailleurs, je vous rappelle que le terme de post-vérité est rentré dans le vocabulaire géopolitique en 2016. 2016, c'était l'élection de Donald Trump, et c'était aussi le Brexit. Mais enfin, le patriarche, si je veux dire, de la post-vérité, c'était Poutine, évidemment, qui, après avoir envahi avec ses supplétifs le Donbass, affirmait haut et fort que la Russie n'avait rien à voir là-dedans. Alors que c'était absolument évident que c'est la Russie qui était derrière ces soi-disant séparatistes. Et quand on posait la question à Poutine, mais comment ça se fait qu'il y a des chars, des armements lourds, etc. Bah, c'est pas un problème. Les armes sont en vente libre en Ukraine. Ce sont des Ukrainiens qui sont allés dans une supérette du coin. Donc, c'est ce qu'on appelle post-vérité. Mais quelle est la différence entre post-vérité et le mensonge qui est finalement le mensonge vieux comme le monde, n'est-ce pas? Et la vérité aussi, c'est vieux, vieille comme le monde. Mais aujourd'hui, on vit dans notre monde instantané. Et l'exemple que vous avez cité, ce sont des exemples des gens qui vivent sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui dictent le tempo de notre monde instantané. Et c'est pour ça que le mensonge aujourd'hui qui prend la forme de post-vérité, ce terme sur lequel j'insiste, la post-vérité, c'est le mensonge du clic. le mensonge de l'instantanéité. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, le mensonge peut être diffusé en un clic, instantanément, immédiatement, à travers le monde. Et aujourd'hui, les démocraties se battent, et ça c'est le combat essentiel du XXIe siècle, pour la restauration de la vérité. La restauration de la vérité, ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont avérés. Par exemple, notre interview, c'est un fait avéré. Donc, mais il faut réinitialiser la démocratie. Parce que la démocratie aussi, mais évidemment la vérité. Parce que pour beaucoup de gens, si vous y ajoutez aussi les sites complotistes qui existent aujourd'hui, eh bien, ils n'y croient plus. Ils peuvent dire, ben non, mais c'est pas une interview entre Bernard et Alexandre. Ben non, mais ça, c'est un truc complotiste.
Qui nous dit que c'est vrai? Qui nous dit que c'est vrai? Qu'il l'a vraiment eu au téléphone? Qui nous dit que c'est vrai? Qu'il l'a vraiment eu au téléphone?
Qui nous dit que c'est vrai? Peut-être que c'était manipulé.
C'est un vieux truc d'il y a deux ans.
C'est-à-dire que les gens ne croient plus finalement à la vérité. Et l'objectif, et je dirais la mission noble des démocraties, c'est, si la démocratie veut survivre au XXIe siècle, ne pas sortir de l'histoire, c'est de réinitialiser la vérité, réinitialiser des faits avérés et dire que la vérité doit prendre le dessus sur le mensonge. Donc la vérité doit prendre le dessus sur les fake news. Et aujourd'hui, une fois de plus, je termine là-dessus, les démocraties, même vieillissantes, même fatiguées, eh bien c'est les démocraties qui incarnent la vérité. Et ce sont les régimes autoritaires, répressifs, liberticides, comme celui de Poutine, comme celui de Xi Jinping, comme celui de Erdogan, et j'en passe des meilleurs, ce sont des régimes autoritaires qui incarnent le mensonge. Dans quel monde, chacun de nous doit se poser une question simple, qui est de savoir dans quel monde nous voulons vivre, dans quel monde nous voulons que nos enfants continuent à vivre après nous. Est-ce que nous voulons vivre dans le monde de la vérité, ou est-ce que nous serons contraints, obligés de vivre dans le monde de post-vérité? Voilà, donc c'est l'un des combats les plus essentiels aujourd'hui qui engage l'avenir.
Vous savez ce que a dit aujourd'hui la Russie? Alors, je sais pas quelle porte-parole, on va dire porte-parole des affaires étrangères. La Russie. La Russie s'est indignée contre le fait que ça a dénoncé Israël, qui ne respecte pas la vie des Palestiniens et qui a un double standard de moralité. Faut être gonflé quand même. Voilà quand même des gens qui ont rasé des villes entières en Ukraine, des fois pour avancer de seulement quelques mètres. Pour quelques mètres, on rase une ville en Ukraine. Et qui condamne Israël, qui ne respecte pas la vie des Palestiniens. Mais vous voulez me dire, en même temps, les dictateurs, on a toujours connu ça, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même encore plus, j'ai envie de dire, encore plus gonflé.
Gonflé, ou je dirais abject, je dirais odieux, parce que ça soulève la question de fondamentaux de la vie humaine, Bernard. Est-ce qu'un être humain, permettez-moi de revenir quand même un peu en arrière dans l'histoire et si vous voulez prendre un peu de recul par rapport à votre question, est-ce qu'un être humain né pour être libre et pour piloter sa vie restant debout, et ça c'est l'apanage et le privilège des démocraties comme Israël, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Europe de façon générale, l'Union européenne en tout cas aujourd'hui, bon à part peut-être la Hongrie, mais ça c'est un autre débat, ou bien l'être humain né pour être, je ne dirais pas un esclave, mais c'est pas l'envie qui me manque pour dire.
Ah, moi non plus.
Enfin, c'est un être humain né pour être, si vous voulez, un rouage au service, disons, de la propagande d'État, c'est-à-dire soumis à un État répressif. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de liberté. À ce moment-là, ça pervertit complètement le sens de la vie. Donc, est-ce qu'il faut aujourd'hui, il faut revenir finalement vers les fondamentaux de la civilisation, d'une civilisation qui a proclamé l'apothéose de la liberté humaine. Et la liberté humaine aujourd'hui est incarnée par les démocraties. Mais je répète que ce combat entre la démocratie et l'autocratie au XXIe siècle, on ne connaît pas l'issue de ce combat-là. C'est-à-dire si, par exemple, l'Occident, c'est-à-dire la démocratie, laisse la Russie de Poutine gagner cette guerre contre l'Ukraine, qui incarne aujourd'hui les valeurs européennes, vous savez ce qui va se passer, l'Occident, en tant que civilisation, risque de sortir car l'agrément de l'histoire, avec le H majuscule, c'est-à-dire disparaître en tant que civilisation. Donc aujourd'hui, le cœur de l'Occident bat à Kiev, le cœur de l'Occident bat à Kherson, à Mariupol, c'est-à-dire en Ukraine, qui se bat non seulement pour son indépendance et pour sa souveraineté, mais aussi pour la démocratie, c'est-à-dire l'Ukraine aujourd'hui se bat pour sa liberté à elle, mais aussi pour notre liberté. C'est pour ça que l'enjeu de, cette guerre dépasse largement l'affrontement entre deux pays. C'est une guerre universelle, c'est une guerre entre deux perceptions de la vie.
Alexandre Melnyk, c'était passionnant de vous entendre.
Ben, merci Bernard. Merci.
Je rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes professeur à l'ICN. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur ces questions de diplomatie et de sciences politiques. Merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci beaucoup, Bernard. J'espère à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.